Bonsoir à tous, bienvenue à la station Ozone. Nous sommes ravis d'accueillir Léonore de Récondeau, qui est là pour nous parler de son cinquième roman, Point Cardinal, paru aux éditions Sabine Vespizer. Alors Léonore, chacun de vos romans est l'occasion pour le lecteur de s'immerger dans un lieu et dans une époque. Il y avait une île des Balkans au fil d'un récit aux accents mythologiques avec la grâce du cyprès blanc. L'Italie du XVIe siècle auprès de Michel-Ange dans Pietraviva, la province du début du XXe siècle avec Amour, la France et l'Espagne des années 30 avec Rêves oubliés. Et voilà que ce dernier roman nous plonge de manière inédite dans notre monde contemporain, mais avec une histoire qui, il me semble, encore une fois, interroge au plus profond les êtres, les corps, les désirs. Point Cardinal, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, raconte le parcours de Laurent, marié, père de famille, de deux enfants, qui chaque samedi après-midi, au dancing le Zanzibar, se travestit en femme et devient Mathilda. La transsexualité, est un sujet qui est rarement abordé en littérature. Je crois que vous, ce n'est pas par l'intermédiaire de la littérature, mais par l'intermédiaire d'un magazine que vous avez eu envie d'écrire sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bien sûr. Oui, j'ai vu la couverture d'un Vanity Fair il y a 2 ans. C'était en couverture, il y avait une femme, Kathleen Jenner, une très belle photo d'Annie Leibovitz, une femme assez vraiment avec tous les atours féminins, assez stéréotypés d'ailleurs, les cheveux, le bustier, la pose. Et puis en parcourant le magazine, je découvre que cette femme était un homme avant. Et un homme qui était Kris Jenner, un grand sportif, un champion olympique, même 2 fois de décathlon. Donc un homme qui avait utilisé son corps vraiment au maximum de ses possibilités. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même complètement fou de ne pas être dans le bon corps. Qu'on ne soit pas à l'aise avec son corps, c'est quelque chose je pense qu'on a tous un rapport assez ambivalent à notre enveloppe. Mais ne pas être juste, ne pas être dans le bon corps, pour moi, là, je me suis dit, c'est fou. Donc, j'ai eu envie d'écrire le parcours d'un homme qui devient femme et le situer surtout dans un milieu beaucoup plus ordinaire que celui de Hollywood et pas non plus dans un milieu qui pourrait être plus communautaire des boîtes de nuit parisiennes, parce que je pense que cette histoire d'identité elle est chez nous tous, enfin c'est pas une question de d'endroit dans la société, c'est partout. Et ça me permettait de développer d'autres thèmes.
Et comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous êtes resté vraiment sur cette réflexion autour du corps ? Ou est-ce qu'au contraire, ou aussi, vous avez collecté des témoignages, rencontré des transsexuels ?
Alors, je me suis beaucoup documentée. À partir du moment où j'ai eu envie d'écrire ce livre, sur ce chemin de vie, comme ça, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu des livres, des essais, des témoignages. J'ai vu beaucoup de vidéos, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un matériel, alors assez peu dans la fiction, comme vous disiez, parce que c'est un peu abordé. Bon, maintenant, les pays anglo-saxons font des séries, des choses comme ça, mais en littérature, en tout cas en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'associations où on peut trouver des témoignages de trans. Donc ça, j'ai vu. Par contre, j'ai su assez vite que je ne voulais pas rencontrer de personnes de trans, parce que je voulais que ce soit un roman et je voulais me sentir libre. Ça n'est pas un témoignage, ça n'est pas le récit d'une histoire. C'est bien entendu un livre qui revendique, qui milite pour une grande liberté d'être soi, ça c'est évident. Mais ce n'est pas le récit personnel d'une personne trans. Donc, je me suis limitée à cette documentation-là pour justement pouvoir construire mon et mes personnages vraiment de A à Z. Et je voulais que ce soit au sein d'une famille. Je voulais pouvoir aussi poser des questions de l'identité, du changement d'identité au sein d'une famille quand tout est très ancré, quand il y a une femme, quand il y a justement de l'amour dans un couple et des enfants.
Pour planter peut-être un peu le décor, je vous propose de lire l'incipit de ce roman, si vous en êtes d'accord.
Avec plaisir. Mathilda conduit jusqu'au rond-point, puis se gare sur le parking du supermarché. Presque personne à cette heure-ci. Elle choisit une place loin de l'entrée, éteint le moteur, insère le disque dans la fente du tableau de bord. À l'ombre de la grande enseigne, la musique surgit, le volume à son maximum. « Oh Lord, who will comfort me ?» Mathilda, cale un miroir sur le volant, se regarde, se trouve belle et triste à la fois. Observe son menton, son nez, ses lèvres. C'est le moment du dépouillement, le pire de tous. Elle sort de la voiture, ouvre le coffre. Sous la moquette, la roue de secours a disparu pour abriter une mallette. Elle la saisit en tremblant. Combien de temps encore ? Mathilda se rassoit. La mallette en aluminium lui glace les cuisses. Elle actionne les petits clapets qui se soulèvent avec un bruit sec. Elle prend une lingette démaquillante, se frotte doucement les yeux, puis commence à retirer ses faux cils. Son visage se déshabille. Lorsque les cils sont rangés dans leur boîte, Mathilda a presque disparu sous les restes de crayons noirs de couleur brouillée, de mascara étalé jusqu'aux pommettes. À ses pieds, entre les pédales, les lingettes imbibées de fard sont jetées, froissées, beige, noir, rouge, marron. My soul is a-wearing. C'est la troisième fois que Mélodie Gardot entame sa chanson. Mathilda fait une pause et chante avec elle, tape sur le volant en mesure. Si elle en avait le courage, elle sortirait et danserait. Elle ouvrirait grand les portières, ignorant, passants et curieux. Elle ondulerait, frapperait dans ses mains, s'exhiberait, mais elle n'ose pas. À moitié démaquillée, Mathilda maintenant reprend son souffle, pose son crâne sur l'appui-tête, attend encore un peu avant de continuer, puis regarde l'heure. Il est 20h17, il faut rentrer. Alors, méticuleusement, elle enlève toute trace sur son visage. Mathilda transpire, les tempes brûlent. Elle retire les épingles et le filet qui retiennent sa perruque, range la chevelure dans sa pochette, vérifie ensuite ses yeux et sa bouche dans le miroir. Tout est vierge, le fond de teint s'est dissous. Elle doit maintenant se déshabiller et enfiler ses affaires de sport. Mathilda se contorsionne pour enlever sa robe de soie. Sa culotte et ses bas sont roulés jusqu'aux chevilles. Laurent est complètement nu. Il attrape son sac à dos sur la banquette arrière et le pose sur le fauteuil passager, fouille dedans, sort un caleçon, un bas de jogging, un t-shirt, des chaussettes, fait vite. La voiture est jonchée de vêtements, de lingettes usagées. Un chaos à l'image de son désordre intérieur. Révolté d'avoir arraché ses habits de lumière, Laurent retourne à l'ombre, jure, s'habille, se crispe, range tout ce qui doit l'être dans la mallette, qui trouvera refuge dans le coffre, sous la moquette, lui restera le mensonge.
Merci beaucoup. Cette première scène est assez extraordinaire puisqu'elle met vraiment en avant toute la complicité, il me semble, du personnage de Laurent, qui est Mathilda, qui devient ensuite Laurent. Comment elle est venue, cette scène de cet homme qui se défait petit à petit de ses oripeaux ? Est-ce que pour vous, c'était important d'emblée d'inscrire Laurent dans cette complexité-là ?
Oui, pour moi, ce qui était... D'abord, je voulais tout de suite qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, en effet, cette scène hyper visuelle, disons, dans cette voiture de cette femme. Et puis, j'avais envie qu'on se dise, tiens, bon, bah, c'est l'histoire de Mathilda. On commence le roman, Mathilda. En fait, non, c'est Laurent. Et dans cette trajectoire, dans le roman, il va y avoir Mathilda, Laurent, Lorraine. Et donc, on commence par une femme, on finit par une femme. Hein. La transition, c'est d'être un homme au milieu de ces deux femmes. Donc, il y avait ça. Pour moi, il y avait le fait de vouloir donc commencer par une scène qui dit tout. Enfin, il y a pas de mots posés, il y a rien à expliquer. Et je voulais aussi qu'on ait l'impression que le déguisement c'est Laurent, ça n'est pas Mathilda. Et ça, j'avais envie que ce soit clair tout de suite, c'est-à-dire qu'il est Mathilda. Et que malheureusement, il doit se déguiser en Laurent pour rentrer chez lui. Et qu'il y a un moment où ça bascule, bien entendu. Parce que là, il est dans un moment où c'est presque révélé. Ça va être révélé plus tard. Mais il fallait tout de suite... Moi, je voulais absolument commencer le roman par elle, puisque c'est elle.
Oui, vous dites qu'il y a des images fortes. Effectivement, c'est très cinématographique aussi. Il y a des scènes connues au cinéma, je pense aux liaisons dangereuses notamment, Glenn Close qui se démaquille. Oui. Est-ce que vous aviez ces images-là ou est-ce que finalement c'était vierge dans votre tête, cette image de Laurent qui se démaquille?
Non, j'avais les images très, très... De toute manière, moi, les images sont toujours très claires dans ma tête quand j'écris. Je ne peux pas écrire une scène sans qu'elle soit hyper visuelle et que je la vois très, très nettement.
Mais vous avez le sentiment d'être influencé par des images
fortes ? Ah non,
fortes.
Pas du non. tout. Non, pas du tout. Hein. J'avais pas de visage préconçu en tête, si c'est ça votre question. Par contre, il est évident que quand il se travestit, il y a quelque chose qui est extrêmement théâtral. Et puis, il est dans ce petit habitacle de sa voiture. C'est-à-dire, il part. On se doute qu'il est parti de chez lui, ou on ne sait pas d'où, de son travail. Laurent part. Il a une mallette caché dans son coffre, et puis il y a cette grande transformation, et puis il revient à lui-même sur ce parking à côté d'un supermarché. C'est aussi très triste. Et ça, il fallait visuellement qu'il y ait ça, qu'il y ait une sorte de parallèle et de grande contradiction dans le fait de cette femme qui n'existe, qui est là, mais qui n'existe pas encore, et qui doit se terrer et se cacher dans cette mallette qui est elle-même cachée sous la moquette, dans le coffre de la voiture. Donc, pour que le surgissement se fasse plus tard.
Et ça rejoint aussi ce que vous disiez au début de l'entretien, autour du quotidien. Finalement, on est vraiment dans la réalité, sans froufrou, sans maquillage.
Oui, le livre suit cette trajectoire. Donc, je vais peut-être faire une petite parenthèse aussi pour parler de la manière dont je disais que dans le livre, il y a elle, Mathilda, Laurent et Lorraine, et qu'au niveau du pronom, il y a aussi ce travail de la langue qui suit la transition de Laurent. C'est-à-dire, Laurent, au début, c'est il, et puis ensuite, c'est Laurent quand il va commencer à prendre des hormones. C'est Laurent qui est conjugué avec elle. Et puis, quand il va travailler habillé en femme, c'est Lorraine qui apparaît. Et là, le livre est autour du « elle ». Donc, il y a aussi ce travail de la langue d'apparition de cette femme. Et j'ai trouvé que c'était un travail assez compliqué, d'ailleurs, de réussir à on sent qu'il y a un flou linguistique, de toute manière, parce que notre langue est hyper genrée. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Je reviens au quotidien. Je voulais, dans ce livre, que cette révélation, dans cette famille, soit vu. C'est aussi un livre sur le regard des autres, ce que ça vient provoquer chez les autres, l'onde de choc. Et quand on est devant une personne qui se pose cette question très, très fondamentale, extrêmement puissante, dramatique, exceptionnelle de qui suis-je, et qui donne une réponse si différente, ça oblige l'autre, ça oblige l'épouse, ça oblige les enfants à se poser la question de qui suis-je aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de bien différencier l'identité que vient questionner Laurent avec son orientation sexuelle. Ça, c'est-à-dire que Laurent aime Solange, il adore sa femme, ce changement d'identité ne change en rien son désir pour elle. Donc là, il y a quelque chose aussi quelque chose en parallèle qui me semble important, parce que des fois il y a une sorte de confusion entre l'identité, l'orientation. Non, là, Laurent, ça ne change rien. Ça ne change rien à son amour pour sa femme, ça ne change rien à son amour pour ses enfants. Il arrive à dire d'une manière très spontanée et extrêmement simple, je suis un père, je suis une femme. Et c'est... Voilà.
Justement, par rapport au terme, vous parliez des choix des mots, du genre. Il y a ce mot, transsexuel, qu'on ne retrouve quasi pas dans le livre. S'il est utilisé lorsque la fille fait un petit reportage pour le journal où oui. Elle évoque la question de la transsexualité. Mais Laurent ne dit pas « je suis transsexuel », il dit « je suis une femme ».
Oui, et en effet, je pense que dans son parcours personnel, à lui, c'est de toute manière un parcours extrêmement individuel, extrêmement intime. Il ne le fait pas pour appartenir à une communauté. C'est-à-dire, il est évident qu'à partir du moment où il entame sa transition et qu'il veut être femme et qu'il est femme, et il est transgenre. Oui, ok, mais c'est pas pour ça qu'il le fait. Il le fait parce qu'il est une femme et on va juste le savoir et il va juste le faire. Donc, il me semblait que les termes existent, et bien entendu, on peut les employer, mais c'était pas ça. Le but de l'histoire, c'est cette chose extrêmement sensible qu'il traverse, sans même, je pense, consciemment, il le sait, mais consciemment, il y a cette appartenance, mais qui découle de son changement d'identité.
Cette scène inaugurale, finalement, elle se répète d'une certaine manière au milieu du livre, sauf que cette fois-ci, Solange est cachée dans la voiture.
Oui.
C'était pour vous, finalement, enfin, moi, à la lecture de ce passage, je me dis que finalement, la voiture, c'est pas innocent. Parce que finalement, on peut se dire les choses, mais sans se voir face à face. Là, en l'occurrence, elle est derrière. Il la découvre par le rétroviseur. C'est important pour vous de faire un aveu. L'aveu, est-ce qu'il aurait pu se faire à un autre endroit? Voilà, parce que j'imagine que la découverte d'un tel secret aussi énorme, elle est compliquée à écrire.
Oui. Alors, en effet. Et puis, moi, cette scène aussi, je l'ai vue et j'ai imaginé donc Mathilda. Qui sort avec de ce bar où elle va danser avec une amie, Cynthia. Donc Mathilda est là, elle est très belle et c'est des grands moments de joie parce que bien entendu Mathilda elle est heureuse là. Et le Zanzibar, moi je vois ça comme un bar pas très glamour non plus. C'est sur un rond-point, c'est un peu en tôle ondulée, c'est pas le truc qui fait rêver quoi. Mais elle s'en fiche, Mathilda, elle va danser. Et elle est dans une insouciance jusqu'au moment où elle sait qu'elle va rentrer dans sa voiture et qu'il va falloir rentrer et qu'il va falloir remettre son déguisement de Laurent. Et donc, je la voyais sortir comme ça, encore très heureuse. Et je me suis dit là, et comment, où ça va se passer? Et je me suis dit qu'en effet...
C'est le sas.
C'est le sas où Solange est donc dans la voiture, témoin... Parce que Solange, à ce moment, pense qu'en fait, il y a quelque chose, elle se doute qu'il y a quelque chose dans la vie de Laurent, de son mari, mais elle pense qu'il la trompe. Or, c'est pas ça.
Elle découvre un cheveu.
Un cheveu, en fait, elle découvre le cheveu de la perruque de Laurent. Et donc, je l'ai vue, je me suis dit, ben oui, elle est là, Mathilda sort, elle est très heureuse, elle est sur ses grands talons, elle a passé une super soirée, il est 20h, à 20h30, Laurent va être chez lui, mais là, c'est Mathilda. Et j'avais envie que Solange voit arriver cette femme sans absolument pas reconnaître Laurent, bien entendu, et puis que cette femme rentre dans la voiture et elle est sur la banquette arrière. Et Mathilda ne s'aperçoit pas de sa présence. Et puis elle assiste. Et elle assiste à ce démaquillage. Et là, Laurent réapparaît. Donc oui, il y avait et en effet, ils sont l'un derrière l'autre, ils se font pas face et il y a juste le regard croisé dans le rétroviseur avec les. Oui, je sais pas, cette scène, elle est, je l'ai vue comme ça, et je me suis dit que c'était juste que c'était là que Solange allait le voir.
Justement, parce que c'est à partir de ce moment-là que le roman tout bascule. Mmh. Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est l'amour qu'il porte pour Solange, que Solange porte pour Laurent, qui va les faire avancer? Est-ce que c'est la détermination de Laurent? Qu'est-ce qui...
Alors, il y a plusieurs choses que je trouvais aussi intéressantes. C'était de me dire qu'à ce moment-là, quand la révélation est faite, Laurent va rentrer dans un processus très compliqué où il va être extrêmement agressé par l'extérieur parce qu'il va être bombardé d'incompréhension, mais... La révélation fait que ça existe. Et donc, en fait, c'est Solange, sa femme, qui vient, parce qu'elle a vu, parce qu'elle a été témoin, qui vient faire exister la femme. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, c'est elle qui valide. Et tout d'un coup, Mathilda existe, Lorraine va exister, Lorraine est là parce que Solange l'a vue. Donc il rentre dans un processus qui est compliqué, mais il rentre dans le processus où il existe.
Vous dites de Solange un moment, c'est d'ailleurs Laurent qui dit de Solange, Solange sait, Solange trouve les solutions.
Pour moi, c'était un couple qui s'est rencontré tôt, qui s'est rencontré au lycée. Solange aussi, c'est une femme qui est enseignante à l'école maternelle, qui a eu, on sent une vie un peu chaotique avec sa mère et qui a essayé de se dire, là, je vais me trouver un cadre quand même plus confortable. Enfin, c'est pas le mot confortable, mais plus solide pour pouvoir avoir une vie telle que je l'entends, avec un mari aimant. Laurent est très aimant, très gentil, avec deux enfants et tout va bien. Et elle se dit, mais c'est génial, cette vie est géniale. On a pu s'acheter une maison, on est heureux. Elle se pose pas des masses de questions, mais il y a du bonheur, quoi. Et elle, jamais, elle ne remet en compte la confiance et le lien avec de cet amour avec Laurent. Donc il est évident que là, il y a une sorte de trahison. Elle vit ça comme une trahison. Le fait de, d'abord, un, de ne pas s'en être rendu compte, parce qu'elle se doute bien que ça doit dater quand même depuis quelque temps. Donc elle ne s'en est pas rendu compte. Il lui en a jamais parlé. Donc là, il y a une sorte de crise fondamentale entre eux, avec... Elle, je pense que c'est une femme assez solide, mais avec quand même une écoute. C'est-à-dire, Solange, elle est formidable, parce qu'elle elle reste à l'écoute. Alors, elle se pose beaucoup de questions, elle-même va faire son chemin personnel, elle va trouver des... elle va faire un peu l'école buissonnière, mais elle est à l'écoute, et elle se rend compte d'abord que Laurent va aller jusqu'au bout, elle le sent. Donc, c'est Lorraine. Elle sait que Lorraine est là. Donc, soit elle la quitte et elle décide que non, elle ne veut pas vivre avec Lorraine. Soit elle reste et elle voit ce qui se passe. Donc, le roman ne parcourt pas les 20 ans de leur vie commune après, mais je pense qu'elle est dans une écoute qui lui permet de rester curieuse. C'est-à-dire de se dire, que va-t-il advenir de ce lien, qui suis-je aussi? Qu'est-ce qu'il va advenir de moi-même, de moi-même en tant que femme, de moi-même en tant que mère? Et elle se pose des questions. Elle lui dit à un certain moment, mais est-ce que tu aurais voulu être leur mère? Donc ça vient soulever des questions qui sont que moi je trouve extraordinaires de pouvoir se les poser. Ça vient changer beaucoup de choses, bien entendu, dans la tête de chacun. Mais surtout, moi j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, Solange, elle est en face d'un être. Et cet être, il passe par plein d'étapes. Et puis cet être, à un certain moment, il ne se définit pas parce qu'il n'y a pas de vocabulaire. Parce que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, la langue est extrêmement genrée. Il y a il, il y a elle, on se définit, mais il y a un certain moment où Lorraine, elle a encore un sexe d'homme, elle est une femme. Donc, quelle image on a comment, et ça, c'était un défi pour moi d'écrivain, de savoir comment le transmettre dans la langue quand ça n'existe pas. Donc Lorraine se demande, mais est-ce que j'existe? Il n'y a pas de mots pour me définir. Est-ce que donc je suis? C'est venu ouvrir tout un champ d'interrogation, mais de l'ordre de l'extrêmement sensible, de l'ordre du corps aussi. Enfin.
Oui. Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur Solange. Il y a un passage assez important dans le roman, il me semble. Je pense que Solange, la problématique de Laurent, elle la partage ou elle la vit aussi. Il y a un passage assez fort, il me semble, où elle est au téléphone avec sa mère. Et sa mère, elle explique qu'elle elle s'appelle régulièrement et la grand-mère, donc des petits-enfants, prend souvent des nouvelles, mais pour avoir des nouvelles des petits-enfants. Et finalement, Solange, elle est le relais entre sa mère et ses enfants. Et elle dit qu'à un moment, elle en a marre parce qu'elle voudrait que sa mère l'appelle simplement pour lui dire « Mais toi, comment tu vas ? Et toi ? Et moi ?» Et elle dit « Voilà, on sera... » Elle aimerait, Solange aimerait, on sera là toujours sans relais ni transmission, qu'on n'ait pas la chair de l'autre, mais la sienne propre sans échapper. Et ça, finalement, je trouve que cette réflexion-là, Laurent, il se l'est faite aussi.
Oui, ils se la font tous. Et justement, parce que là, on parle de l'enveloppe corporelle, on n'en a qu'une, et on n'échappe pas à soi-même. Donc là, elle aussi, ça la renvoie à son propre questionnement intérieur de qui suis-je, où suis-je, comment faire. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi personnellement. C'est-à-dire, je me suis aperçue, quand j'ai eu un enfant, que ma mère ne me posait mais plus jamais la question de comment j'allais. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. C'était « Bonjour, ça va ? Comment va ?» Mon fils s'appelle Hector. « Comment va Hector ?» Bien, on parle d'Hector, on parle des uns des autres, on raccroche. Bon. Et puis, au bout de plusieurs années, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Toujours un truc un peu bizarre, ou une sorte de sensation un peu étrange, c'est que, en fait, hop, il y a un truc, ça passe à une autre génération, c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. Mais que, donc, elle arrive quand même à mettre ça, à mettre ce mot sur ça, de se dire « Ah, j'existe ». Là, il y a un truc, et elle a toujours, elle est enseignante, elle donne beaucoup aux autres, elle a donné à ses enfants, elle donne. Je pense qu'elle est dans une sorte de ressenti, comme ça, de transmission, où elle est comme si elle était le vecteur. Et puis, ça ne s'arrête jamais trop sur elle, quand même. Or, là, il y a quelque chose dans sa vie, ça aurait pu continuer très longtemps, puisqu'elle est heureuse, elle ne se remet pas en question. Sauf que là, ça vient la remettre en question, mais fondamentalement. Et elle n'ose pas en parler à sa mère parce qu'elle se dit on ne va pas compliquer, rajouter. Mais oui, c'est une sorte d'arrêt sur image sur elle-même. Et elle se rend compte que bon, ben, la question d'elle-même, elle ne se l'est jamais trop posée. Et là, elle est obligée. Parce qu'elles sont deux, parce que qui sommes-nous, parce que où allons-nous, parce que est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne, est-ce que Lorraine a voulu, il est père, est-ce qu'elle est mère, enfin, et tout ça vient se mélanger, et c'est pour elle, ce sont des questions incroyables, et je pense qu'en effet, il y a des endroits où il n'y a pas de réponse, et comment vivre quand il n'y a pas de réponse?
Qui est étonnant aussi, c'est que finalement, ça arrive à un moment où les enfants sont adolescents. Donc oui. On n'a pas un corps en mutation, on en a trois,
oui,
c'est en vrai. Fait.
Oui, il y avait l'adolescence. Alors, moi, je m'étais dit que Laurent avait vraiment investi sa paternité au maximum. C'est-à-dire que c'était là qu'il se sentait homme et qu'il y avait quelque chose qui était venu se mélanger un peu. Se confondre pour lui dans cette paternité, la paternité. Puis, et donc, je suis un homme, je suis père, je suis un homme, je suis père, je suis un homme, je suis père. Et puis, il y a un moment où les enfants grandissent, où il y a quelque chose d'autre qui se passe, et où là, ça vient, ça lui revient en pleine figure. Et qu'après, il va dire, je suis une femme, je suis père, je suis une femme, je suis père. Mais donc, bon, l'adolescence, et ça me permettait aussi d'avoir les réactions des enfants. Alors, ils auraient pu évidemment réagir en étant plus petit. Mais là, il y avait une confrontation qui, moi, m'intéressait, de celle du garçon qui a 16 ans et qui refuse absolument ce changement radical, ce qui m'a semblé le plus logique, puisque lui-même est en pleine construction, pleine recherche de lui-même, en pleine construction virile, et que l'homme qui a été toujours son modèle, son père, tout d'un coup, lui dit « en fait, je suis une femme ». Donc ça, c'est insupportable. Il est dans la révolte, violente même. Et puis, la fille de 13 ans, qui a un peu moins d'enjeux, puisque son modèle reste sa mère, et qui va être plutôt dans une sorte de compréhension et même d'explication. C'est-à-dire, elle pense qu'elle va vouloir l'expliquer aux autres pour pouvoir le comprendre elle-même. Et elle va d'abord utiliser des moyens un peu dérivés, ça ne va pas être frontal, elle va d'abord en parler à la radio, et puis elle va en parler au collège. Et bon, à partir du moment, je pense, où Solange tient, c'est plus simple pour les enfants de tenir, même si le fils dit bah, « elle est lâche, elle ferait mieux de se barrer ». Mais ça laisse quand même une possibilité à la fille d'être à l'écoute. Si la mère est à l'écoute et ne part pas tout de suite, ça ouvre quand même une brèche pour essayer de considérer et juste d'écouter un peu plus loin.
Dans ce couple, finalement, si la sexualité est évoquée, mais pas remise en question, on peut dire par contre qu'il y a énormément de sensualité. La peau, la chair de Laurent, le contact avec le tissu, la culotte, la robe.
Alors, je me suis dit ça au départ. Je me suis dit que Laurent est une femme. Il n'a pas pu le vivre, il n'a pas pu l'extérioriser. Mais il y a quelque chose qui est évident à l'intérieur, qu'il a essayé de se cacher, etc. Mais bon, on n'est plus trop au moment où il se le cache, là, dans ce roman. Et que la douceur qu'il sent à l'intérieur de lui, de cette femme, il fallait qu'il puisse la sentir à l'extérieur. Et que c'était évidemment par le toucher. Parce que le toucher, sentir son corps, sentir la soie, c'est pas parce que la soie peut être un élément extrêmement féminin, ou c'est pas ça. C'est qu'il y a dans la douceur de ce toucher quelque chose d'extérieur qui le renvoie à ce qu'il est à l'intérieur. Et donc, pour moi, il fallait qu'il y ait quelque chose de son corps qui puisse déjà appartenir à ce qu'elle est. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a le corps en changement. Il y a l'acceptation, le fait. Il y a l'acceptation, l'affirmation, le passage à l'acte avec la prise des hormones, et puis ce corps, enfin, je pense que qui provoque certainement de grandes souffrances et de grandes difficultés aussi, mais une joie aussi. Enfin, moi, j'avais envie de dire que Lorraine, quand elle prend ses hormones, elle est aussi dans une énergie extraordinaire parce qu'elle y est. Et ça passe par la révélation du corps, la sensibilité et le regard des autres, puisque tout est dans le regard des autres. Quand tout d'un coup, la boulangère dit « bonjour madame », et cette affirmation, le fait que ce soit extrêmement posé, que ce soit sans équivoque... Oui, ça, c'est aussi une joie, enfin, que j'ai imaginée complètement, oui, extraordinaire.
C'est un roman à fleur de peau, mais finalement, on se rend compte en lisant tous vos romans que la question du corps, de la peau, elle est centrale. Vous en êtes consciente de ça ?
Écoutez,
on avait laissé, vous aviez laissé vos lecteurs dans Amour avec la transformation du corps,
désir, oui, là, c'était
du désir, le désir entre deux femmes. Il y a le bouleversement de Michel-Ange à la vue du cadavre du jeune avec qui il travaillait. Le corps, c'est pour vous un matériau important pour pour travailler, pour mettre passer de la chair à l'écriture.
Ben, c'est aussi mon outil de travail, puisque je suis violoniste aussi. Donc, le travail du corps et de l'expression du corps, elle est évidente dans ma vie. Ma vie, c'est aussi comment, à travers mon corps, grâce à mon corps, parfois contre mon corps, quand il n'est pas assez intelligent, comment faire passer... Comment interpréter, comment faire passer une émotion, comment d'une partition évoquer. C'est mon outil. Donc depuis toujours, mon corps est un outil d'expression. Alors c'est pas comme un danseur, mais presque. Enfin, donc j'ai un instrument en plus, mais il est évident que cet instrument fonctionne avec mon corps. Donc ça, donc évidemment, le corps m'intéresse. Évidemment, quand on apprend un instrument, on nous parle beaucoup de notre corps, même si en général, l'enseignement se cantonne aux mains. Enfin bon, bref, mais c'est encore une autre histoire. Mais le tout du corps qui exprime, ça, c'est aussi une autre partie de ma vie extrêmement importante. Alors finalement, je peux pas dire que j'ai commencé d'écrire en me disant ce corps m'intéresse, je vais écrire sur ça. Pas du tout, c'est complètement inconscient. Mais évidemment, quand je me retourne maintenant un peu sur les quelques livres que j'ai écrits, je vois bien qu'il y a une présence du corps. Mon père était peintre et sculpteur. Son œuvre tourne aussi autour du corps. J'ai passé de nombreuses années en Italie où j'ai vu d'autres sculpteurs à l'œuvre. Enfin, il y a quelque chose du corps qui travaille, du corps qui exprime, du corps qui surgit, qui m'intéresse beaucoup. Et puis, je trouve très souvent, parce que j'adore être dans des cafés à regarder les gens, que ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi dans mes personnages, c'est ce qui échappe. Le corps extrêmement exprime beaucoup de choses. Et on voit, et ça, ça m'intéresse, ce qui échappe, ce que vient parfois contredire le corps. On dit un truc et puis on voit bien que derrière, c'est pas ça, ou inversement, et puis un visage, et puis en effet, un geste, une peau. Ça me touche. Et je sais pas, souvent me revient en mémoire un passage d'une petite nouvelle de Zweig, dont je me souviens pas du titre, où il y a cette jeune fille qui écrit une lettre, et puis il y a le père derrière qui est un militaire extrêmement, extrêmement raide, et on sent bien qu'il a un peu de mal à s'exprimer, à dire. Et puis, à un certain moment, ce militaire regarde la nuque de sa fille, et elle écrit, il regarde la nuque. Et dans ce regard, dans la transcription que fait Zweig, de ce regard porté sur la nuque, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 40 pages l'amour du père qui n'arrive pas à s'exprimer, de machin. Non, c'est... Il y a un regard sur la nuque. Et ça, justement, arriver à capter ces détails-là, on n'a pas besoin de plus, parce que tout est expressif.
Merci beaucoup. Alors justement, dans une autre manière de voir les personnages, il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé, et qui est à la fois peu présent et en même temps très présent dans les pensées de Laurent, qui est Cynthia, une personne avec qui il danse au Zanzibar.
Oui, Cynthia, ça, c'est un peu la marraine de Lorraine. C'est-à-dire que Laurent va danser au Zanzibar et rencontre Cynthia, qui est trans et qui est déjà passée par là, et qui va l'accompagner dans ce... Et il est évident qu'il a besoin au début de cet appui, de cette confiance, de cette complicité pour être elle. Et c'est un grand réconfort de savoir que c'est possible, de pouvoir poser des questions pratiques aussi, parce qu'à un certain moment, il est aussi très seul, et très seul contre d'autres. Et donc, Cynthia va lui parler, les associations, et puis aussi les démarches, l'endocrinologue, et puis Lorraine. Moi, j'ai imaginé qu'après, cette amitié va peut-être se fondre, ne plus exister, parce que Lorraine, elle n'a plus besoin. Et Lorraine, elle va peut-être aider d'autres personnes, et il va se passer une sorte de transmission. Mais pour moi, Cynthia, c'est une amie, c'est une marraine.
On n'a pas parlé du titre, point cardinal. Point cardinal, en géographie, en astronomie, c'est un point d'horizon servant à se diriger. Comment il est venu, ce titre ?
J'avais pas de titre au départ, et j'ai lu dans une poésie point cardinal, et c'était ça. Voilà. C'est point cardinal, parce que en effet, Lorraine a ce point cardinal, exister. Elle va exister. Elle existe déjà. Elle va juste être. Et elle suit. Alors c'est un chemin compliqué, c'est un chemin douloureux, c'est un chemin joyeux, c'est un chemin exaltant, c'est un chemin contre, c'est un chemin avec. Mais il y a un point cardinal à suivre, et elle est.
C'est la détermination de Laurent ?
Oui, c'est son... Oui, détermination folle.
C'est la première fois que vous écrivez sur le contemporain. Comment c'est fait, justement, comment écrire sur le contemporain ? Parce que finalement, pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Est-ce que vous aviez besoin de vous en éloigner pour mieux y revenir plus tard ? Ou comment
s'est fait ce parcours ? Ça me faisait un peu peur, le contemporain. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un peu peur d'écrire une... D'abord, les histoires qui me venaient ne se passaient pas aujourd'hui. Ensuite, c'est évident qu'elle allait passer à la période contemporaine, parce que je ne voulais pas qu'elle soit même il y a 30 ans. Ou... Non, c'était aujourd'hui. Donc, il a bien fallu que je m'y mette. Et je ne sais pas, j'avais peur du vocabulaire, alors que finalement, c'est le même que dans mes autres livres. Hein. Bon, parfois, on se met des sortes de barrières mentales qui semblent un peu absurdes pour les autres. Et puis, je me suis dit non, il faut juste... se lancer, c'est aujourd'hui, et c'est pas... J'avais peur que, parce que ça se passe aujourd'hui et que je l'écrive aujourd'hui, ça soit daté dans 10 ans, qu'on se dise, oh là là, c'est tellement 2015. Mais on se dira peut-être. Et comme on peut se dire pareil pour Amour, même si ça se passe en 1908, c'est complètement absurde. Hein, Mais bon, j'avais une petite angoisse qui s'est très vite
dissipée.
À partir du moment où j'ai commencé mes recherches et je me suis dit, bon, non, ce roman, il se passe maintenant. Et puis, bon, tu nous embêtes avec tes petites peurs. J'y suis allée d'une manière assez naturelle. Enfin, j'ai pas eu à retravailler en me disant, mon Dieu. Non, j'ai retravaillé mes phrases pour leur fluidité, comme je le fais chaque fois. Et peut-être là, encore plus, parce que je voulais vraiment que la langue soit très proche de cette énergie, de cette détermination, de ce point cardinal que Lorraine est. Et il fallait vraiment épurer. À mon avis, il n'y avait absolument pas de place pour du blabla, pour des, je ne sais pas quoi. Il fallait que ce soit à l'os de ce qui se passe, à l'os de ses émotions à lui, de ses émotions à elle, de ses émotions de Solange, des émotions des enfants qui sont vraiment dans quelque chose d'hyper fondamental, d'hyper crucial. Et là, il n'y a pas de place pour l'artificiel, pour tout ça. Donc oui, il y a eu en période de temps, quasiment autant de temps de correction que de rédaction du livre. Je crois que c'est le livre qui m'a demandé le plus de travail. Et ça m'a plu. Enfin, c'était dur, mais ça m'a plu.
C'est Marine Landreau qui dit dans un très bel article dans Télérama que vous avez employé une écriture sans fard ni froufrou.
Oui. Oui, parce qu'il ne s'agit pas ni de fard ni de froufrou, justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans cette histoire. Ça n'est pas une histoire de travestissement, non, c'est une histoire d'existence. Et c'est très, 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 pour moi, c'était très important, mais c'était aussi par respect pour chacun de mes personnages qui est vraiment, ils sont vraiment dans des moments, mais super durs de leur vie. Donc, c'était leur rendre justice que d'être au plus, il fallait vraiment être au plus juste de là où ils en étaient chacun.
Mais c'est réussi.
Merci.
Vous évoquiez la musique tout à l'heure, évidemment, c'est une autre partie de votre vie. La musique, elle était présente dans les romans précédents. Elle l'est aussi là, par l'intermédiaire d'une voix que vous avez évoquée au début à la lecture, qui est celle de Mélodie Gardot. Alors, qui est Mélodie Gardot? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu pour ceux et celles qui ne la connaissent pas?
C'est une chanteuse américaine qui fait du jazz. Une chanteuse de jazz qui, moi, je trouve une voix vraiment extraordinaire. Et j'avais envie que Laurent, quand il se travestit, qu'il ait besoin d'une sorte de musique qui vienne accompagner son maquillage, son démaquillage, qui l'accompagne, qui soit une sorte de référence, qui soit quelque chose dans lequel aussi de réconfortant dans ce moment extrêmement difficile. Et Mélodie Gardot qui dit « Oh Lord, who will comfort me ?» Mais mon Dieu, qui va, c'est un gospel en fait, cette chanson. Qui va me réconforter? Il n'a personne vers qui se tourner. Il écoute cette chanson en boucle, il la chante et c'est une sorte de référence, c'est une sorte de moment qui va suivre dans tout le roman où à chaque fois, qu'il soit Laurent, qu'il soit Lorraine, c'est une référence où il va pouvoir se recentrer, être à l'aise. Il y a des moments de mémoire comme ça, sa mémoire est faite de telle sorte que dans ce moment-là, il peut souffler.
Musique refuge.
Oui.
Et ce qui est étonnant, c'est que cette femme, Mélodie Gardot, a eu un accident grave, oui. et elle a eu vraiment. Il y a un travail qu'elle a fait
sur
beaucoup autour
corps,
de son corps, justement. Et puis elle aurait réussi à s'en sortir grâce à la musicothérapie.
Oui, ça, je c'est marrant parce que j'ai pas. Quand j'ai choisi Mélodie Gardot, c'est parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est très simple, beaucoup plus simple que. J'adore ce qu'elle fait, puis je trouve qu'elle a une voix très, très. Très belle, qui transporte, enfin qui charrie beaucoup de choses. Et puis je me suis dit voilà, Mélodie Gardot, ça va être Mélodie Gardot. Alors j'ai écouté tout le répertoire de Mélodie Gardot pour choisir ma chanson. J'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle avait un sens en plus, il me semblait. Et puis quand je me suis un peu plus intéressée, je me suis dit tiens, Mélodie Gardot, qui est-elle? Je me suis aussi aperçue que, en effet, elle avait eu un accident de voiture, je crois, un grave accident, et que elle s'en était sortie grâce à la musique et que ce qu'on entend dans sa voix, c'est son histoire.
Vous écrivez beaucoup de, vous écoutez beaucoup de musique quand vous écrivez?
Pas du tout, aucune, parce que ça me déconcentre. J'ai besoin de silence ou du brouhaha, des cafés parfois, mais la musique, ça vient me, je pense, empêcher le petit rythme que j'essaye de trouver moi-même et qui est très fragile. Et ça vient impossible.
Et justement, comment vous considérez votre activité d'écriture par rapport à votre activité de musicienne? Est-ce que ce sont deux choses très différentes dans votre façon de vivre, ou est-ce que ce sont deux choses que vous liez intimement?
J'ai pas, c'est difficile pour moi de répondre à ces questions. Je les lis intimement dans le sens où, où c'est moi qui les pratique. Donc bon, elles se complètent beaucoup. Avec l'écriture, ma vie a quand même changé. Avant 2000, je sais pas, j'ai dû publier en 2012. J'étais exclusivement violoniste et je faisais beaucoup de tournées. Je continue bien évidemment, mais maintenant la littérature prend une place de plus en plus importante dans ma vie. Je me suis même posé la question à un certain moment de savoir si j'allais continuer ou pas à jouer du violon. Et oui, parce que ça vient me donner un équilibre corporel et psychique très 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 important. C'est une sorte de même quand j'ai pas de si j'ai pas de concert, je travaille toujours du Bach, toujours les sonates et partitas de Bach pour violon seul, qui sont une énorme œuvre. Je sais que je vais y passer ma vie. Je sais qu'il y a certains mouvements que je travaille depuis que je suis adolescente et j'ai 40 ans, 41, et que je continue de retrouver avec plaisir. Ce sont des sortes de références. Et là, j'y trouve une sorte de paix intérieure. Il y a quelque chose de mon corps qui se pose. On peut pas venir m'emmerder dans cet endroit-là. C'est très agréable. Et donc, c'est un équilibre pour moi évident dans ma vie intime, ce violon, qui est différent. Bon, je suis interprète quand je suis violoniste, je ne compose pas. C'est peut-être ça qui est un peu étonnant dans mon parcours et qui aurait été certainement plus logique. Or, j'écris. Mais quand j'écris, je suis créatrice et je suis seule et ça vient que de moi et je suis pas obligée de tenir compte des musiciens. C'est vraiment, je suis pas du tout dans le collectif, je suis dans l'hyper individuel. Donc ça aussi, c'est évidemment très riche parce que je suis complètement libre à cet endroit-là aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se complète. Évidemment, dans mon écriture, il y a une recherche de silence, d'harmonie, de fluidité, de phrasé, qui sont un vocabulaire équivalent à la musique. Donc, on trouvera sûrement des ponts entre... Moi, c'est difficile d'être bon juge sur ça, et il est évident que dans l'univers musical, la littérature est venue prendre sa place. Après, pour pouvoir le dire de manière très objective... Et factuel, je ne saurais pas vraiment quels exemples vous donner.
Vous vous dites musicienne et auteur.
Oui. Ouais.
Mais c'est très bien. Vous évoquiez le collectif. Justement, il me semble qu'en musique, ouais, en matière de musique, vous appartenez à un collectif un petit peu particulier, oui, qui n'a pas de chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire,
oui,
un petit peu plus?
On a monté un collectif, ça s'appelle le collectif 392, qui est un collectif de 9 musiciens. Pour l'instant, on explore la musique française du 17e. Donc le 392, c'est un petit clin d'œil au diapason à la hauteur du la, qui est à 392 en musique française, pour dire les choses brièvement. Et donc, on a décidé de faire une sorte de musique de chambre élargie et d'explorer à neuf une musique sans chef. Et donc, où tout le monde a une place, tout le monde a une parole et tout le monde doit avoir une écoute. Ce qui est important pour des musiciens.
Et un travail, voilà, comment dire, vous puisez sans doute de l'inspiration à la fois dans l'un et dans l'autre.
Oui, tout ça, c'est une richesse. Et puis dans la vie. Et puis non, enfin, moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir écrire et de pouvoir jouer du violon. Alors parfois, c'est beaucoup de travail, ça me demande une grande discipline, ça me demande des efforts de concentration. C'est un engagement. Mais bon, moi, je viens d'une famille d'artistes où l'engagement est inhérent à la vie, est inhérent à une vie spirituelle, à une vie artistique. Donc, je le fais, je poursuis mon chemin.
Vous parlez d'engagement, vous avez eu le sentiment de prendre un risque en écrivant ce roman?
Oui. Oui. Mais bon, si on prend pas de risque, on s'ennuie.
Oui, vous avez bien raison.
Donc, peut-être le sujet est risqué. Bon. Et alors?
Oui, bien sûr.
Et la manière de la de traiter ce sujet, moi extérieur, est risqué. Et alors ? Et puis, je pense que les grands sujets de société, quand ils apparaissent dans l'art, ça veut dire que ça y est, ils y sont, on y est. Ils sont dans la vie, on y est. À mon avis, qu'une auteure qui n'est pas transgenre s'empare dans la fiction, dans le roman, de ce thème, c'est bien, ça veut dire qu'on y est. Ça fait partie, ça existe, on y est autrement que dans le militantisme, qui est hyper important, mais ça se déplace et ça traverse.
Oui, il y a très peu de romans qui évoquent ce thème, mais il y a le vôtre, qui est un très beau livre, et qui pourra permettre aussi peut-être que les langues se délient.
Oui, et puis c'est être le sujet. Soi, de toute manière, voilà. Chacun poursuit son chemin. Hein. C'est très basique et très simple de dire ça, mais je crois que c'est vrai. Bon, Laurent et Lorraine, c'est cette histoire-là. Après, il y a d'autres histoires où de toute manière, la question de fond, c'est est-ce que je suis tel que je suis ? Est-ce que je vis en adéquation avec moi-même ? Est-ce que je me sens libre dans cette histoire qui est ma vie ? Et ça dépasse le transgenre, ça dépasse tout. Enfin, c'est une histoire intime et individuelle de chacun.
Connais-toi toi-même.
Oui, sois toi-même.
Et sois toi-même. Merci beaucoup, Léonore de Récondo, d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup
d'être venue jusqu'à Bordeaux. Ah ben non, avec grand plaisir. Merci.